contretemps. Une émission de Canal Academy,
Priscille Lafitte
et ses invités.
Bonjour et bienvenue dans cette émission Temps contre temps, avec pour invité aujourd'hui le philosophe, historien et sociologue Jean Béchler. Jean Béchler, bonjour.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue à Canal Académie.
Merci de m'accueillir.
Et vous êtes membre de l'Académie et professeur de sociologie historique à Paris 4, dite Sorbonne. Comme il est de coutume pour les émissions Temps contre temps, nous avons invité, avec nous dans ce studio, quelqu'un d'une autre génération que vous. Quelqu'un d'ailleurs que vous connaissez bien, car cette personne mène une thèse sous votre direction. Il s'agit de Nadia Roy.
Bonjour.
Bonjour Nadia. Sur quel thème exactement est-ce que vous faites une thèse ?
Je travaille sur une étude de sociologie comparée qui porte sur les modes d'appréhension par les entreprises des différents types de personnalités, notamment lors des processus de recrutement et d'évaluation.
Un travail sur la personnalité.
Voilà. Je me base notamment sur la théorie du psychisme humain qu'est en train de mettre en place Monsieur Jean Béchler. Je la confronte un petit peu à la réalité de l'entreprise. Et ça donne quelque chose, heureusement.
Alors on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Nous allons mener un exercice assez difficile pour vous deux. Celui où le rapport enseignant et enseigné est un petit peu inversé.
Oui.
C'est-à-dire que c'est à Nadia de vous poser des questions, à vous Jean Béchler. À vous, monsieur, de vous prêter au jeu des questions. Une autre personne aurait dû être là, mais elle ne le peut pas pour des raisons de santé. Nous lui souhaitons le meilleur rétablissement possible. Il s'agit d'un de vos étudiants en thèse également, Thierry Tirebois, qui enseigne la sociologie à la Sorbonne sous votre direction. Il nous a fait part de certaines de ses questions, donc nous permettrons de vous les poser de sa part. Avec une première interrogation, allons-y, commune avec Nadia Roy, donc c'est un peu la même idée qu'ils ont eue tous les deux, et que je me permets de vous poser, sur votre parcours qui fascine, parce que vous avez mené, vous êtes intéressé à des époques très différentes, des sujets variés, avec différents angles d'approche de l'humain. Alors pour citer exactement la question de Thierry Tirebois, depuis votre première rencontre avec Raymond Aron jusqu'à votre plus récent séminaire de la Sorbonne, la question du devenir humain constitue un fil directeur qui lie entre les différents ouvrages. On peut voir en chacun d'eux une pierre apportée à l'édifice global. Ainsi, vos travaux sur les suicides et les idéologies sont manifestement des angles d'approche de la nature humaine, tandis que le pouvoir pur et démocratie traitent des relations entre les types de pouvoir et la nature du régime politique. D'autres de vos travaux traitent encore des diverses formes de société humaine, ce que l'on appelle la morphologie sociale. Alors, rétrospectivement, Monsieur Béchler, comment traitez-vous, quel sentiment d'humilité, de continuité ?
La cohérence, si vous voulez, de tous ces travaux. Je pourrais vous répondre par une défaite, c'est-à-dire par une mauvaise échappatoire, en disant que ce n'est pas fini. Et donc, je pourrais vous répondre quand ce sera fini. Mais je suis suffisamment proche de la fin, je ne dirais pas de mon œuvre parce qu'elle n'est jamais achevée, mais disons de ma carrière et de ma vie, pour avoir tout de même une idée un peu plus précise ce que j'ai voulu faire. Et de fait, le thème du devenir est celui qui traverse de la manière la plus continue tout ce que j'ai fait et qui n'a cessé de m'occuper bien avant que je ne rencontrasse Raymond Aron. Je lui avais proposé ce sujet de thèse au lendemain de l'agrégation d'histoire, et donc j'avais à ce moment-là 25 ans, et je pensais au devenir depuis l'âge de 14 ou 15 ans. Et donc, ça ne vient absolument pas de Raymond Aron. Si vous voulez, pour dire les choses simplement, ce qui m'intéresse et qui ne fait plus que m'intéresser, qui me passionne, se trouve chez Lucrèce et chez Virgile. Connaître la cause des choses. Et il se trouve que moi, je suis intéressé par les causes des choses humaines, autrement dit, le règne humain. Pourquoi le règne humain se présente-t-il comme nous constatons qu'il se présente ? avec ses dimensions multiples, politiques, économiques, ludiques, démographiques et autres, avec ses productions les plus variées, artistiques, utilitaires, avec, comment dire, des successions d'étapes, d'aires, de stades, ou bien également avec une apparence de chaos total. Peut-on, comment dire, construire des hypothèses cohérentes et plus simples que le réel, qui donnent au moins l'illusion qu'on commence à y comprendre quelque chose? Et voilà ce que j'essaie de faire depuis 50 ans. Et par conséquent, sans bien entendu que cela se présente comme un plan établi à l'avance et développé d'une manière systématique, mais rétrospectivement, tout cela m'apparaît comme tout à fait cohérent, j'ai jeté des coups de projecteur successifs sur des aspects de ces réalités humaines qui me paraissaient susceptibles de me fournir les plus grands enseignements au service de ce que je recherchais, c'est-à-dire c'est vraiment les causes des choses. Pourquoi c'est comme ça? Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et si c'était à refaire, je referais exactement la même chose.
Du coup, vous êtes amené à vous intéresser à aborder les choses par différents angles, hein, par celui essentiellement aussi de l'histoire, avec une première question de Nadia.
Moi, j'aurais aimé vous demander comment on passait de l'histoire à l'humain et comment, à travers l'histoire, vous en arrivez à avoir une vision cohérente de ce que peut être l'humain.
Alors, bon, je peux répondre d'une manière assez technique, mais je crois simple, à cette question. La réponse est dans le titre d'une de mes dernières publications, « Nature et histoire ». Je crois qu'il existe une nature, en l'occurrence une nature humaine, mais d'une manière plus générale une nature des choses, et que le propre de l'enquête scientifique est d'essayer de saisir cette nature des choses. Or, le propre de la nature humaine est de n'être pas génétiquement programmé. Autrement dit, nous n'avons pas dans notre génome tous les programmes dont il suffirait qu'ils se développent pour que les problèmes qui se posent à l'espèce humaine fussent spontanément résolus. Plus, en termes positifs, nous avons à inventer notre humanité. Il n'y a dans notre génome que des programmes virtuels. Exemple, nous sommes programmés pour parler. Mais nous ne sommes pas programmés pour parler telle langue. Il faut donc par nécessité qu'il y ait une histoire des langues. Qu'est-ce que cette histoire des langues? Quels sont les facteurs qui sont susceptibles d'expliquer pourquoi on parle français ici et chinois ailleurs? Voilà le genre de questions que je me suis posé. Alors, pour essayer de répondre, on ne peut pas faire autrement que de prendre plusieurs cas, de les comparer, afin de repérer les facteurs qui paraissent pouvoir être pertinents, et dans le meilleur des cas, pour pouvoir les peser les uns par rapport aux autres. Autrement dit, la première étape est, je l'appelle philosophique, de quoi s'agit-il? D'où faut-il partir? Autrement dit, quel est le fondement à partir duquel il deviendra possible d'affirmer quelque chose de plausible sur le réel? Deuxième étape, c'est historique. Il n'y a que des cas particuliers, même singuliers, des actualisations de ces virtualités humaines. Et troisièmement, pour pouvoir expliquer, il faut adopter un point de vue sociologique que j'assimile à un point de vue comparatiste. Voilà. Donc, tout ce qui est humain, je crois vraiment tout, j'en suis persuadé aujourd'hui, ne peut être abordé que par la conjonction, si vous voulez, de ces trois démarches philosophiques, historiennes et sociologiques qui définissent par conséquent trois disciplines. Mais le réel humain peut être découpé en segments, non pas indépendants ou discrets les uns par rapport aux autres, mais ayant tout de même leur logique propre, que j'ai nommé le politique, l'économique, le démographique, le religieux, enfin un certain nombre de, et le psychologique, auquel on peut appliquer et on doit appliquer ces trois questionnements, s'il est à la fois distincts et appelés à coopérer l'un avec l'autre.
C'est donc une définition assez originale de la sociologie, de votre discipline, si je peux me permettre.
Originale, non, mais devenue complètement hérétique. Mais parce que en deux mots, si vous voulez, je crois que c'était le propos des pères fondateurs de la sociologie, si vous reprenez ce que je crois être le texte fondateur de la sociologie, même si le mot n'y est pas, c'est Montesquieu, l'esprit des lois. C'est très exactement en ces termes que Montesquieu s'exprime dans les deux pages de préface. Je veux comprendre les lois humaines, pourquoi, nous dirions aujourd'hui les régimes politiques, pourquoi tel régime règne ici et un autre là, et pour ce faire, eh bien, je vais les comparer plusieurs cas afin de dégager alors ce qu'il appelle l'esprit, que nous appellerions les facteurs, si vous voulez, qui permettent d'expliquer pourquoi les Chinois sont Chinois et les Européens, Européens.
Alors, vous qualifiez cette position d'hérétique, et je vais me faire l'écho de Thierry, pour vous demander pourquoi aujourd'hui cette position est si rare et pourquoi elle est si riche.
Ah, riche, ça j'en sais rien. Pourquoi elle est rare, ça c'est assez facile à expliquer. Parce qu'il y a, dans les différents domaines qui composent le règne humain, que j'appelle des ordres, mais ce n'est pas une question de vocabulaire. À côté du politique, de l'économie que j'ai signalé, il est clair qu'il y a quelque chose que l'on peut essayer d'appeler le social. Les êtres humains sont grégaires, ils forment des groupes, ils construisent des réseaux, ils vivent en société en appuyant leur vivre ensemble sur des principes de cohérence. Les êtres humains sont distribués dans ce que j'appellerais des populations, c'est-à-dire des ensembles d'individus qui ont en commun un ou quelques traits. Par exemple, les jeunes, les vieux, les hommes, les femmes, les immigrés, les citoyens, donc les non-citoyens, et le nombre des populations possibles est, sinon infini, du moins indéfini. Alors, on peut décider, enfin on peut pas décider, on doit décider qu'il est possible et nécessaire de construire des sciences du social, comme il y a une science de l'économique, une science du religieux. Cette science du social, dans ma position, exigeant le recours à la philosophie, à la sociologie et à l'histoire. Alors malheureusement, on a appelé sociologie la première position Montesquieu, si vous voulez, des pères fondateurs. Marx dirait à peu près la même chose, si vous voulez, je crois Durkheim aussi, Max Weber très certainement. D'une part, et d'autre part, la sociologie en tant que science d'un certain nombre de segments du réel considérés comme sociaux à juste titre, si vous voulez, pourquoi pas, mais à condition de définir ce que l'on entend par social. Eh bien, l'usage du même mot pour désigner deux démarches foncièrement différentes, l'une disciplinaire, si je puis dire, et l'autre scientifique au sens d'application à un segment du réel et à la science qui est là en charge, a entraîné, enfin, une confusion. Alors, chez Durkheim, je crois que la confusion, est subreptice. Il s'en est pas exactement rendu compte. Peu importe, il n'y a pas de responsable à proprement parler, sinon que les Américains ont, pour des raisons qui, je tiens, je crois, à leur tradition et à la nature de leur société, ne s'intéressent guère à l'histoire, encore moins à l'histoire comparée. Bon, l'histoire du monde, en gros, a commencé en 1776, à la rigueur, en 1620, avec l'arrivée enfin, des pères pèlerins dans le Massachusetts. Se sont intéressés, pour des raisons tout à fait légitimes, à la sociologie au deuxième sens. Et comme les Américains sont devenus, depuis la Deuxième Guerre mondiale, disons, guides d'opinion, à travers le monde, eh bien, c'est cette deuxième acception de la sociologie qui a triomphé purement et simplement. Alors, ajoutons que c'est plus simple parce que, bon, vous prenez les immigrés, même bien circonscrits. Si vous essayez d'adopter la position de Montesquieu, de Marx ou de Max Weber, c'est un peu plus difficile, dirons-nous.
En effet. Bon. Nous allons marquer tout de suite une petite pause. On revient tout de suite avec Jean Béchelet.
Vous écoutez Canal Académie. Canal Académie.
Nous sommes en compagnie de Jean Béchler, philosophe, historien et sociologue, professeur notamment à l'université Paris-Sorbonne, et une de ses étudiantes en thèse, Nadia Roy. Nous sommes donc dans la confrontation entre deux générations, ou plutôt essayer de comprendre votre œuvre du point de vue d'un étudiant qui vous suit depuis quelques années. Peut-être on va revenir sur l'origine de votre pensée. Qu'est-ce qui vous mène là? On sait que vous avez été disciple et ami de Raymond Aron. Vous parliez du fait que vous avez en tête votre sujet de thèse depuis votre âge, depuis que vous aviez 14 ou 15 ans, depuis votre adolescence. À quel moment est-ce que vous avez l'impression d'avoir acquis une autonomie de pensée? Quand est-ce que vous avez pensé, quand est-ce que vous avez commencé votre œuvre, disons?
La réponse va être prétentieuse, mais enfin tant pis, vous me la posez et puis nous sommes entre nous à 14 ans. J'ai le sentiment d'avoir été adulte, non seulement intellectuellement, mais de manière générale à l'âge de 14 ans.
Qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 14 ans?
Je suis devenu adulte et simplement je suis tombé, disons, sur la possibilité d'interroger le réel de faire le pari qu'en l'interrogeant, il était possible, avec la construction d'appareillages intellectuels suffisamment puissants, de parvenir à des réponses plausibles, bien entendu. Je ne dis pas que c'était aussi clair et explicite à 14 ans, il ne faut pas exagérer, mais enfin, tout de même, c'était ça, avec, alors, disons, avec la conviction qui n'a cessé de se renforcer avec le temps, c'est qu'on prend toujours le train en marche, et tout ce que l'on peut faire, c'est d'être dans le train, entre deux stations, c'est-à-dire le temps que l'on a travaillé aux questions que l'on a décidées, ou que l'on a décidé, c'est pas le mot, qui se sont imposées à vous, si vous voulez.
Il y a une lecture à ce moment-là qui vous a marqué?
Non. Vous savez, il y a des vocations, ça existe. Ça existe. C'est comme ça. Non, tout de même, la question n'est pas sans conséquence. En ce sens que je ne peux vraiment pas dire que j'ai suivi tel enseignement, que j'ai été impressionné par tel auteur. J'ai été bien entendu très impressionné par quelques auteurs, essentiellement Aristote, saint Thomas d'Aquin, si vous voulez, disons les grands philosophes, mais tout plus précisément ces deux-là. Mais assez curieusement, cela ne s'est pas traduit par l'idée « donc je vais faire de l'Aristote ». De l'aristotélisme ou du thomisme. Et pendant des décennies, je n'en ai plus jamais lu une ligne, si vous voulez, mais je crois les avoir retrouvés, sans le faire exprès, mais en profondeur, si vous voulez, en suivant ma propre problématique. La conséquence, c'est que, comment dire, je me considère un peu comme autodidacte. C'est-à-dire que je n'ai pas suivi, si vous voulez, j'ai bien entendu, je suis passé par les bonnes études, les bonnes écoles, tout à fait classiques, si vous voulez, mais même pendant mes études universitaires, tout à fait banales, si vous voulez, je ne cessais, si vous voulez, d'étudier en pensant à ma propre problématique et en sélectionnant dans ce que je devais étudier ce qui me paraissait aller dans mon propre sens. Autrement dit, il y a une sorte d'élaboration organique, spontanée, dont j'ai en tout cas le sentiment très vif qu'elle m'a été personnelle, non pas au sens que je suis seul, mais qu'elle a marqué ma démarche. Donc, vous avez dit disciple de Raymond Aron. D'abord, personne n'est disciple de Raymond Aron. Ça l'aurait presque vexé, si vous voulez, d'entendre ça. Parce que il n'y a pas d'aronisme à proprement parler. Il y avait une certaine, comment dire, un certain nombre, je dirais, de maximes éthiques, si vous voulez, de la vie intellectuelle auxquelles il se tenait d'une manière très stricte et qui était que, il y a la vérité et l'erreur, et qu'il est possible de dénoncer l'erreur avec de bons arguments et de découvrir le vrai en suivant les bonnes méthodes. Deuxièmement, il croyait au débat intellectuel, c'est-à-dire qu'en se mettant autour d'une table et en discutant, eh bien on pouvait progresser dans le sens du vrai en s'éloignant du mal. Donc je dirais c'est vraiment un aspect éthique, et j'ajouterais un aspect esthétique, c'est la plus belle intelligence que j'ai jamais rencontrée. Une merveilleuse mécanique intellectuelle, savante par ailleurs, savante n'est peut-être pas le mot, mais enfin informée et surtout merveilleusement articulée. Et donc c'était un plaisir esthétique pur et simple que de l'entendre parler, de voir comment il reprenait un exposé, pour le détruire d'ailleurs de fond en comble, mais c'était merveilleusement fait. Et donc j'ai suivi, si vous voulez, une dizaine d'années, c'est pas son enseignement, moi je l'ai jamais suivi à un cours d'Aron, c'était son séminaire, de thèse ou de post-thèse, enfin disons c'était un salon. Bon, voilà, c'était un salon intellectuel, hebdomadaire. C'est dans ce cadre-là, donc c'est le contact, si vous voulez. Je serais incapable de dire, j'ai retenu ceci. Franchement, je serais incapable de le dire, et pourtant, je me suis formé à ce contact.
Est-ce que vous faites vôtre les principes pédagogiques qu'il adoptait ?
Je crois qu'il avait... vous avez deux types d'enseignants, je crois. Je parle du supérieur, évidemment. Vous avez ceux qui savent ce qu'ils font et qui peuvent, trouver des collaborateurs efficaces parmi leurs étudiants. Bon, j'imagine un professeur d'histoire qui veut dépouiller, enfin, un corpus... Mais il n'a pas le temps de tout faire, il confie certains éléments du corpus à tels étudiants. C'est le séminaire à l'allemande, parfaitement légitime, bien entendu. Un peu moins légitime, ce sont, je dirais, les maîtres à tendance tyrannique et qui considèrent que la manière dont ils posent les questions est la seule possible et que par conséquent, leurs étudiants doivent exactement suivre la même démarche et donc trouver les mêmes réponses. Donc ils veulent des clones, si vous voulez. Donc, les uns veulent des collaborateurs, les autres des clones. Donc, il y a en fait trois catégories. Et la troisième, donc c'est celle, je crois, telle que je l'ai perçue d'Aron, en tout cas c'est la mienne, c'est la tradition socratique, si vous voulez, de la maïeutique, aider à accoucher. Féconder, distribuer, si vous voulez, au vent, des idées, des interrogations, en espérant qu'elles seront recueillies quelque part, par des terres fécondes, si vous voulez, que cela donnera quelque chose. Alors, dans les cas presque généraux, on n'en a pas la plus petite idée. Je ne sais absolument pas ce que j'ai pu apporter à des gens qui m'ont écouté. Il y en a plus qui m'ont lu, si vous voulez, qu'écouter, je l'ignore. Je ne tiens pas tellement à le savoir, d'ailleurs. Et puis, il y en a quelques-uns avec qui on est en contact, si vous voulez, plus longuement. Et je crois, moi, il s'agit de les aider à devenir eux-mêmes.
D'ailleurs, je crois comprendre au contact de Nadia Roy et de Thierry Thirbois que, par exemple, vous n'allez pas imposer un sujet de thèse.
Non là aussi, Raymond Aron m'a dit une fois, il me l'a dit personnellement, si un étudiant vient me voir et me demande de lui définir un sujet de thèse, je le renvoie en disant, vous n'êtes pas mûr pour faire une thèse. Revenez me voir quand vous saurez sur quoi vous voulez travailler. Et j'ai exactement la même position, pas parce que c'est celle d'Aron, mais parce qu'elle me paraît pleine de bon sens, tout simplement.
C'est vrai que définir une question pertinente, c'est une des choses les plus difficiles, je crois, dans l'accomplissement, par exemple, d'une thèse ou d'un travail de recherche. Et ça m'amène à vous poser une question qui est, finalement, est-ce que vous, en tant que professeur et que chercheur, ça ne vous permet pas de sentir l'évolution du temps, en ayant des étudiants qui vont venir vers vous avec des questionnements qui vont évoluer et...
Voilà, c'est une question qui est intéressante, à laquelle personnellement, j'aurais peine à répondre, si vous voulez, en tirant la réponse de mon expérience. Je dois préciser que moi, j'ai une carrière toute simple, si vous voulez, qui m'a conduit à entrer au CNRS à 29 ans, où je suis resté 22 ans. Alors, j'ai toujours enseigné, parce que, bon, j'en ai éprouvé le besoin, et j'aimais cela. Mais, les étudiants n'avaient pas tellement intérêt à s'inscrire en thèse avec moi, puisque j'étais au CNRS, il faut tout de même tenir compte des carrières, enfin. Et donc, je n'occupais aucune position dans l'université qui permit, enfin, de les aider. Donc, j'en ai pas eu tellement tant que j'étais au CNRS. Et puis, je suis arrivé 22 ans plus tard, c'est-à-dire en 88, à la Sorbonne, directement, parce que tout simplement, il y a un collègue qui m'a dit qu'il aimerait bien que je vienne le rejoindre. J'ai beaucoup hésité, parce que moi, j'étais très bien au CNRS. Et donc, je suis arrivé en 88-89. Je n'ai pas eu tellement, si vous voulez, d'étudiants, de thèses à diriger. En tout cas, je n'ai pas le recul, si vous voulez, chronologique suffisant pour répondre à cette question. Et je pense qu'Aaron n'aurait pas pu répondre non plus, parce que, assez curieusement, lui est arrivé très tard aussi à la Sorbonne. Bon, je crois qu'il avait mon âge, à peu de choses près, il faudrait vérifier, parce que pour des raisons tout à fait différentes, la guerre, l'après-guerre, etc. Il m'a dit un jour, je n'ai pas eu tellement de thèses à diriger. Je dirais la même chose, c'est comme ça.
Nous marquons tout de suite une pause, nous sommes en compagnie de Jean Béchler.
Parce qu'ils ont façonné l'histoire de nos civilisations, ils furent acteurs ou témoins de cette histoire, leurs travaux et ouvrages nous font traverser les siècles, historiens, philosophes, économistes, juristes et sociologues s'expriment sur Canal Académie. Les membres de l'Académie des sciences morales et politiques racontent, retrouvez-les dans Un jour dans l'histoire, une émission de la rédaction de Canal Académie. Ouvrir et découvrir les livres des académiciens, c'est ce que vous propose tous les jours Radio-Canal Académie. À différentes heures de la journée, les membres de l'Académie des sciences morales et politiques vous parlent de leurs écrits, notamment historiques, philosophiques et économiques, les livres des académiciens, leurs lectures, les prix qu'ils décernent chaque année. Canal Académie, la première radio académique francophone au monde, leur donne la parole. Connectez-vous sur www.canalacademie.com et écoutez. Nous retrouvons Priscille Lafitte.
C'est la troisième partie de cette émission Temps contre temps, en compagnie de Jean Béchler, philosophe, historien et sociologue, ainsi qu'une de ses étudiantes en thèse, Nadia Roy. Nous sommes en train de parler de pédagogie, justement du rapport professeur-élève. Et peut-être une question sur qu'est-ce qu'on peut retenir de vos cours, Nadia ?
Oui, dans vos séminaires, nous assistons à l'élaboration de votre travail de recherche. Finalement, qu'est-ce que vous attendez qu'on en retire en particulier par rapport à la capacité à créer une œuvre ?
C'est très exactement ça, si vous voulez. Je distinguerai les cours des séminaires. Les cours, bon, j'en ai fait en première année, deuxième année, mais surtout en licence et en maîtrise. Dans un cours, si vous voulez, vous présentez une recherche sinon achevée, du moins suffisamment proche de l'achèvement pour qu'elle puisse être présentée comme un tout cohérent. Quitte à reprendre ensuite et à corriger. Alors qu'un séminaire, c'est totalement différent. J'appelle ça mon laboratoire personnel. J'invite, si vous voulez, un certain nombre d'étudiants à entrer dans mon laboratoire personnel, ce à quoi je me consacre chaque semaine, pendant combien, disons la moitié de l'année, et je n'ai jamais quoi que ce soit de prêt à l'avance. Je veux dire par là que chaque semaine, je consacre 2-3, maintenant avec l'âge, souvent 4 matinées, à préparer un séminaire d'une heure et demie le mercredi soir. Et tout cela, consacré à un questionnement s'approfondit, se développe sur plusieurs années. L'expérience prouve, j'avoue que ça ne cesse de m'étonner, je fais ça depuis plusieurs dizaines d'années, ça donne quelque chose. Je ne sais, nous sommes quoi aujourd'hui, lundi, le séminaire de mercredi n'est pas prêt, je compte terminer demain matin. Là, je suis sûr de pouvoir arriver mercredi avec quelque chose à dire, je ne sais pas si j'aurai quelque chose à dire le mercredi suivant qui à la rentrée. Alors, maintenant je fais confiance à la nature, si vous voulez, parce que je sais que mon cerveau est ainsi, si vous voulez, configuré que régulièrement, sans m'avoir jamais trahi, la veille du jour où je commence à m'occuper de mon séminaire, les idées commencent à jaillir, que le matin, le premier matin où je m'y consacre, en me réveillant en général, il y a la première proposition qui arrive, et puis je recours volontiers à l'image du greffier, je me sens un greffier, si vous voulez, qui prend note. Et puis qui met ses notes, si vous voulez, un peu en forme. Alors, ça c'est mon point de vue, si vous voulez. Quel profit peuvent en tirer les étudiants? Bon, c'est à eux à le dire, si vous voulez, mais mon pari, si vous voulez, est que c'est la forme la plus, comment dire, la manière la plus formatrice de former des jeunes à la réflexion, au questionnement. De voir comment on construit un problème, comment on essaie de trouver des solutions, comment tout cela s'enchaîne, comment la cohérence progressivement s'installe. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus formateur.
Parce qu'il y a des cours qui sont remplis de références. Il y a des cours qui sont formés de façon très différente des vôtres, je crois.
Ça, c'est des cours, si vous voulez. Ben oui, il y a ceux qui... Il y a les cours, c'est l'état de la question. Non, mais il en faut. L'état de la question...
Les vôtres sont très différents.
Ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, je me serais occupé d'autre chose. Si j'avais dû faire un cours sur Platon, Aristote, je serais mort d'ennui depuis très longtemps. Mais je n'ai envisagé de faire ça m'intéresse absolument pas de raconter ce que les autres ont raconté. Je les ai lus pour moi, si vous voulez, pas tellement pour les réponses, mais pour les questions, si vous voulez. Donc il m'arrive de les relire, simplement, parce que les grands, si vous voulez, on peut tout indéfiniment les relire, c'est toujours neuf, parce qu'on n'avait pas vu ça. Donc c'est pas du tout... bibliographie et tout ça, je donne jamais de bibliographie, ça c'est inutile. Et puis surtout, c'est pas l'état de la question, j'allais dire, c'est prétentieux, mais ce que Jean Béchler, en ce moment, pense sur telle question, voilà.
Nadia.
Alors vous avez utilisé pour vous le terme configuré. Et c'est vrai que à force de fréquenter votre séminaire, on a parfois l'impression d'acquérir une structure de pensée qui va prendre de plus en plus d'ampleur et qui est très efficace. À tel point même qu'on se demande parfois, mais moi étudiant, moi personne, où suis-je par rapport à cette pensée de Jean Béchler et par rapport à ces structures de pensée que me propose Jean Béchler. Et j'ai envie de vous poser la question de l'autonomie. On a compris que vous nous laissiez une grande liberté, mais quelle part d'autonomie vous permettez à vos étudiants, parce que c'est quand même assez impressionnant de vous avoir en face de nous. Et puis également, comment vous permettez à travers votre enseignement cette prise de distance?
Comment prendre du recul?
Il faut se révolter.
Révoltez-vous, Nadia.
Oui, il faut
se révolter. Je vais tenter de le faire.
À un certain moment.
J'ai peur d'être moins brillante.
Non, il faut prendre son indépendance. Non, il y a un risque, évidemment, c'est le clonage. Enfin, c'est incontestable. Mais c'est un risque, bon, qu'on ne peut pas éviter. Je dirais que c'est tout de même d'un abord assez rugueux ou assez difficile pour qu'il y ait un phénomène d'autosélection qui s'effectue. Si vous voyez, ceux qui n'ont pas, un ressort suffisant et des ressources suffisantes, intellectuelles bien entendu, pour se confronter, si vous voulez, à ce genre de démarche, vont voir ailleurs, si vous voulez, trouver des moules, bien constitué et de manière à savoir très précisément où on en est. Mais je crois qu'il y a un risque certain, c'est de tellement s'assimiler une certaine démarche, une certaine conception, une certaine etc., que le risque de perdre sa personnalité intellectuelle est réel. Et je crois que la solution, il faut se révolter, il faut à un certain moment dire non. Se révolter, ça peut se faire avec la plus grande courtoisie, bien entendu. mais ça peut... Bon, j'ai aucun cas, je crois, de rupture, enfin violente, n'est pas le mot, mais disons... conflictuel, je n'ai pas de souvenir. Mais il faut s'en aller à un certain moment pour parachever sa formation et devenir soi-même. Alors, si vous voyez, cette manière d'envisager l'enseignement me paraît celle que l'on trouve dans toutes les grandes traditions, si vous voulez. C'est tout de même bon, la tradition grecque, c'était ça. La tradition indienne, la tradition chinoise, un petit groupe autour d'un quelqu'un qui est un peu moins ignorant et qui passe un certain nombre d'années à se former à son contact.
Alors, imaginons que vos étudiants évitent l'écueil du clonage. Oui. Comment trouvent-ils leur place dans la sociologie ? On a vu que vous aviez une perception assez générale qui englobait plusieurs disciplines. Aujourd'hui, comment on peut être un chercheur, ou du moins un penseur interdisciplinaire, un chercheur de l'interface ?
C'est une question délicate et à laquelle, malheureusement, je crains que la réponse ne soit pessimiste. Il faut manger. Il faut donc faire carrière, d'une manière ou d'une autre. Et pour faire carrière, il faut s'inscrire, si vous voulez, dans les normes reçues à un moment donné dans une société, en l'occurrence universitaire donnée. Les normes sont définies pour l'essentiel par les Américains. Vous n'avez qu'à prendre un article quelconque dans une revue de sociologie, vous verrez que la bibliographie est intégralement américaine, avec presque toujours un point de départ dans un des grands sociologues de la première tradition, donc Durkheim, Weber ou un autre. Et ensuite, ma foi, c'est... Alors, je ne vois pas la possibilité, si je vois la possibilité, si vous voulez, mais c'est très très risqué, de refuser de se glisser dans ce moule. Alors, bon, moi j'ai eu la chance, par naïveté pour l'essentiel, puis parce que j'ai eu de bons amis, d'éviter totalement ce piège, je crois, ou ce récif, en choisissant un certain nombre de thèmes ou d'objets de recherche qui étaient dans la tradition de Weber et des autres, et qui, comment dire, auraient dû me conduire normalement au restaurant du cœur, mais un peu par miracle ont été soutenus. Je suis entré au CNRS sans difficulté parce que le projet que j'avais présenté avait plu beaucoup à Balandier. J'avoue que je vois pas très bien pourquoi ça lui avait plu. Bon, avait beaucoup plu. Aaron m'a reçu dans son cercle, si j'ose dire, parce qu'il a eu le sentiment que j'avais quelque chose à dire. C'est Raymond Boudon qui m'a fait venir à la Sorbonne parce que, bon, disons que j'ai eu de bonne compagnie et que, bon, puis qu'il avait quelque estime pour moi. Donc, je crois vraiment avoir eu beaucoup de chance. Alors, je n'exclus pas que quelqu'un puisse avoir la même chance, mais il faut avoir de l'audace, je crois. Il faut avoir vraiment de l'audace et tout de même, il est prudent de réserver ses arrières. Alors, je conseille en général, quand c'est possible, passer une agrégation. Vous êtes sûr de ne pas mourir de faim. Et ensuite, bon, allez-y.
J'ai donc raté la voie de l'indépendance.
Non, mais c'est une possibilité.
Par exemple, prenons votre cas, Nadia. Est-ce que vous arrivez, par exemple, à vous inscrire dans une discipline en particulier par rapport à une autre ?
Non, moi, ce qui me plaît, c'est pour ça que je suis allée vers Jean Béchler. C'est parce qu'il me permettait d'avoir un regard sur plusieurs disciplines et d'avoir un regard cohérent en allant vers plusieurs disciplines.
Alors, oui, non, mais ça ne vous facilite pas l'existence, ne vous la facilitera pas. Mais non, il faut pas non plus, comment dire, exagérer, comment dire, les rigidités ou voir les scléroses. Tout de même, les gens sont sensibles, si vous voulez, à des démarches originales et qui donnent le sentiment d'apporter quelque chose. J'ai toujours constaté, moi-même, j'étais dans un certain nombre de commissions du CNRS ou des universités, les très bons dossiers passent, si vous voulez. Donc, il y a tout de même, enfin, en ce qui vous concerne, si vous voulez, faites une très bonne thèse. Ça ne suffit pas. Mais une très bonne thèse, remarquée tout de même, ça aide, surtout si on est lu par quelqu'un qui, qui est sensible à l'originalité. Alors ça c'est un peu le hasard, ça. On peut, évidemment, les rapporteurs peuvent ne pas être à la hauteur, mais bon, ça fait partie des aléas de la vie. Je crois que l'essentiel est de ne pas admettre ou de ne pas accepter de compromis sur l'essentiel, c'est-à-dire sur ce que l'on croit être la voie vers la vérité, pour parler noblement, enfin. Donc là, il ne faut pas... Ça, c'est aronien, si vous voulez. Il n'y a pas de compromis là-dessus. Pour réussir, si vous voulez, à entrer dans la carrière, c'est plus difficile. Une fois qu'on est dedans, ma foi, ça va tout seul. Il faut parfois, comment dire, jouer avec. Ne pas avoir trop mauvais caractère, ça peut aider. Enfin...
Et j'aimerais un peu inverser les termes du débat. Et vous demandez, par effet miroir, en quoi la sociologie participe-t-elle à votre désir de vous réaliser en tant que personne ?
Oh là, c'est une question à laquelle je n'aurais pas pensé. La sociologie, pas sûr que la sociologie, si vous voulez...
En tant que choix, peut-être ?
Oui, mais enfin, c'est pas... Vous savez, je crois, c'est philosophie, sociologie et histoire. C'est-à-dire, je crois que, effectivement, je ne sais pas si je réponds à votre question... En s'attachant, si vous voulez, avec une véhémence extrême, mais contrôlée, à essayer de percer autant qu'il est possible les énigmes du règne humain, on s'interroge forcément sur l'humain, et comme on fait partie de l'humain, on s'interroge sur soi-même. Et de ce point de vue, je dirais que, comment dire, toute enquête, je dirais, creusée assez profondément, débouche sur l'éthique, c'est-à-dire sur les fins dernières.
Vous écoutez l'émission... pardon, je vous ai interrompu, M. Béchelin.
Pas du tout, il y avait un éclair de lumière qui venait de la scène.
Nous sommes en compagnie de Jean Béchelin, vous écoutez Canal Académie, c'est l'émission Temps contre Temps.
Vous écoutez Canal Académie. Canal Académie.
Vous êtes sur Canal Académie, c'est l'émission Temps contre Temps, en compagnie de Jean Béchelin et de Nadia Roy, qui mène une thèse sous sa direction. Qu'est-ce que vos élèves vous apportent, Jean Béchelin ? Il y a Nadia Roy qui est ici, vous en avez une... Vous avez d'élèves sous votre, qui mènent une thèse sous votre direction, d'ailleurs ?
Oh, les séminaires... Vous êtes combien? Ça dépend. 5, 6, 7, je crois qu'il doit y en avoir 8, mais il y en a toujours un qui est absent, ou un ou deux. Un bon séminaire, c'est entre 6 et 8. Au-delà, ça se transforme inévitablement en cours. Or, assez curieusement, c'est moi qui parle tout le temps, que ce soit un cours ou un séminaire, et pourtant ce n'est pas du tout la même chose. Alors, nous sommes assis autour d'une table, donc il y a une certaine contiguïté physique qui doit jouer... d'une manière que je ne perçois pas. Ce ne sont pas les questions, parce qu'il n'y en a pas tellement. Cela dit, on voit si ça réagit ou si ça ne réagit pas. Je crois que, c'est peut-être égoïste de dire ça, la principale contribution, c'est l'obligation qui m'est faite chaque semaine, depuis combien ? 35 ans. 35 ans au moins, plus de 35 ans, chaque semaine, pendant, mettons, 6 mois ou 7 mois, de venir en ayant quelque chose à dire qui s'inscrive dans un projet ou dans des projets à long terme. Donc c'est une contrainte terrible, enfin ça n'a l'air de rien, mais réussir à le faire sans, je n'ai jamais répété, jamais en 35 ans, deux fois la même chose, jamais. Et chaque fois, et je ne tire jamais rien d'un tiroir où ça attendrait d'être
tiré. Quelle exigence.
C'est chaque semaine, je prépare quelque chose. Et donc, il est clair que si je n'avais pas d'étudiants, je ne le ferais pas. Parce que c'est pas possible, tout simplement. Et donc, je les remercie d'avoir la patience de me suivre dans cette aventure. Alors, au-delà, tout de même, il y a les aspects. Les cours, par exemple, de licence sont beaucoup plus nombreux. On ne les connaît pas. Enfin, moi, du moins, je les distingue à peine. Enfin, s'ils sont trop nombreux, on ne peut pas connaître plus, au grand maximum, une dizaine, je dirais, entre 6 et 8. Enfin, disons 12. Il y avait tout de même 12 apôtres. Enfin, est-ce qu'ils les connaissaient tous? Bon, c'est bien. Je crois que les psychologues sociaux ont étudié la dynamique des tout petits groupes, et quand au-delà de 8, il se passe des choses, enfin, si vous voulez. Donc, j'aime les petits groupes, et tout de même le contact des jeunes. Simple conversation avant, après, pendant, ou bien il m'arrive de les inviter à dîner, ça doit les ennuyer, mais enfin moi ça me distrait, c'est pas le mot, c'est pas une question de distraction, c'est le contact avec des jeunes, ça c'est ce qu'il y a de merveilleux dans le métier de professeur d'université, c'est qu'à un âge fort avancé, on croise des jeunes et des jeunes, enfin qui sont avides de savoir, c'est tout de même pas rien, enfin.
Oui. Avide de savoir, c'est vrai que devant l'immensité de votre œuvre, quelquefois, moi de ma part, qui ne suis pas un de vos élèves, j'aurais bien aimé, par exemple, pouvoir approcher une œuvre de vulgarisation, quelque chose qui soit plus abordable. Oui. Vous y avez songé ?
Non. Non. On ne peut pas tout faire. Je citerai les propos d'un de mes maîtres. J'ai fait des études d'histoire, j'avais une vocation de philosophe, et puis il m'est arrivé une crise intellectuelle avant 20 ans, j'avais 19 ans, une crise qu'a vécu Aron au lendemain de l'agrégation de philosophie. Mais qu'est-ce que c'est que ces études de philosophie? Enfin, ça m'apprend quoi? Alors, comme je m'intéressais au devenir, la solution a été assez simple. J'ai fait de l'histoire. Et j'étais étudiant à Strasbourg et j'ai fait mon mémoire de maîtrise, ça s'appelait différemment à l'époque, avec Jean Leclan, qui est maintenant secrétaire perpétuel des inscriptions et belles-lettres, et que je croise dans les escaliers de temps en temps. Je me rappelle un propos qu'il a tenu, qu'il m'a tenu personnellement à cette époque. J'ai posé à peu près la même question, mais je n'ai pas dit que vous ne publiez peu. Il publiait vraiment très peu. Il m'a dit, ça ne m'intéresse pas. Moi, je mets au point, si vous voulez, les matériaux avec lesquels d'autres pourront construire l'histoire de l'Égypte. C'est un égyptologue. Et je suis d'avis qu'il y ait une division du travail entre les chercheurs, proprement dit, archéologues, spécialistes des inscriptions, d'une part, et des journalistes qui raconteront, si vous voulez, à partir de ces matériaux, ce que l'on peut dire de l'Égypte. Il poussait peut-être les choses un peu loin, mais j'avoue, j'ai le même sentiment, si vous voulez. Il y a une division du travail, il y a ceux qui essayent de construire de nouvelles questions et de leur trouver des réponses, ou de lancer de nouvelles problématiques, ou bien de reprendre d'anciennes questions en essayant de trouver de nouvelles réponses. Et puis, il y a ceux qui l'expliquent aux autres, si vous voulez. Je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit le même genre de talent qui soit requis pour faire l'un et l'autre. Bon, je pense que si vraiment, sous peine de mort, je devais écrire un manuel, bon, je pense que j'y arriverai, je suis pas sûr qu'il serait tellement bon, enfin, et en tout cas, j'ai pas envie de le faire. Alors, ça va tout de même encore plus loin, parce que on peut se poser la question, pourquoi étudier, si vous travaillez, alors là, la réponse est toute simple, parce qu'on aime ça. Et on aime ça parce qu'on est travaillé par la curiosité, une passion de la curiosité, donc ça va pas être justifié. Deuxième question, réponse moins évidente, pourquoi écrire? Je crois que la réponse est que, sauf exception rare, en tout cas dans nos sociétés, on ne peut mettre au clair ses idées et donc parvenir à une conception cohérente qui tienne la route qu'en écrivant. Sinon, ça part un peu dans tous les sens et ça ne donne rien. Et troisième question, encore moins évidente, pourquoi publier ?
Est-ce que, pardon, sur votre dernière remarque, est-ce que ça veut dire que tous vos séminaires, par exemple, vous les écrivez ? Ce n'est pas quelque chose
Non, ce sont des notes, c'est très construit. Enfin, bon, il y a parties, chapitres, sections, paragraphes, etc. Donc, c'est très construit, mais je ne les et ce sont des notes détaillées, de plus en plus avec l'âge, d'ailleurs, assez curieusement, mais ce n'est pas rédigé. J'ai des séminaires, très très fouillés, approfondis, que je n'ai pas rédigés et que je ne rédigerai probablement pas. Par exemple, j'ai étudié les histoires de Chine et du Japon d'une manière très très approfondie, mais je ne rédigerai pas parce que je ne connais pas le chinois ni le japonais et que je ne peux pas, il est trop tard pour les apprendre, et je répugne personnellement à écrire sur des sociétés dont j'ignore la langue.
Donc là, vous êtes dans l'oralité, alors
Oui, j'ai fait ces séminaires, mais j'ai beaucoup travaillé, j'ai des dossiers considérables, enfin bon. Alors, pourquoi publier ?
Oui.
Alors, la réponse, il y a deux réponses possibles pour diffuser, si vous voulez, auprès de ceux que ça intéresse, si vous voulez. Donc, appelons ça la divulgation. C'est pas du tout mon propos. Je publie parce que je fais le pari qu'un jour, quelqu'un, quelque part, reprendra les questions au point où je les ai laissées. Autrement dit, je fais le pari que je peux être un maillon dans une chaîne dont le point d'origine se perd dans la nuit des temps et dont le point d'aboutissement se perd dans la nuit des temps, mais du côté de l'avenir. Alors c'est un pari à peu près toujours stupide, mais si personne ne le fait, eh ben la chaîne ne se construit pas. Autrement dit, pour parler directement, j'écris pour Montesquieu, pour Marx, pour Durkheim, pour Max Weber, en sachant que il y a de fortes chances que ça ne les intéresse pas du tout, et en pariant qu'il y aura demain ou après-demain un Chinois, un Indien, quelqu'un quelque part qui, je répète, participera à la construction de la chaîne. Et donc, la divulgation est parfaitement légitime, indispensable. Je crois que il revient à d'autres de le faire.
Vous nous avez parlé de la crise que vous aviez ressentie vis-à-vis de la philosophie. Et j'ai envie de repartir de là pour parler de vos projets. Notamment, vous avez le projet d'un travail sur le devenir. Est-ce que finalement, ce projet d'un questionnement sur le devenir n'est pas une manière de réouvrir la porte de la philosophie et de lui donner un avenir ?
Donner un avenir à
Parce
la philosophie.
Aujourd'hui, on est souvent, moins à l'université, dans l'histoire de la philosophie.
Bien sûr. Non, mais ça, c'est parce que c'est beaucoup plus facile à faire et qu'on risque rien. Vous savez, bon, si vous parlez de Platon, d'Aristote, de Kant et de Hegel, bon, vous aurez toujours quelque chose à dire. Il est beaucoup plus délicat, d'essayer de développer les questionnements. Alors, bon. Mes projets, si vous voulez, là tout de même, je suis tout de même à la fin de mon parcours, si vous voulez, je le dis sans aucune amertume ni aucun regret, je ferai
Vous avez encore des années devant vous.
Oui, mais enfin bon, tout de même. Donc j'ai un certain nombre de projets, il y en a, si vous voulez, mais ça fait prétentieux, mais enfin bon, puisque j'ai accepté de parler de moi, allez, j'y vais. Rétrospectivement, cela m'apparaît comme une tentative de construire une somme anthropologique. Je crois que c'est vraiment ça. Et que tout converge, si vous voulez. Mais il me reste, si vous voulez, à compléter cette somme par deux grands volets. L'un sur la nature humaine, et donc c'est ce à quoi je me consacre depuis 5 ans, et que je compte bien rédiger. D'une part, et d'autre part, une analyse fouillée, méticuleuse, sur les 3 types d'activités dont me paraît être faite la matière historique, à savoir des actions, des cognitions, des connaissances, et ce que j'appelle des factions, c'est-à-dire des produits du faire ou du créer, des matières informées ou des formes matérialisées. Et donc j'aimerais avoir le temps de terminer ça. Alors sur l'agir, le faire et le connaître, c'est rédigé, mais il faudrait que je reprenne ça, j'ai pas eu le temps encore.
Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on qualifie cette somme anthropologique de système ?
Il y a un côté systématique parce que ça repose sur une hypothèse, et je crois que c'est la toute première que j'ai eue quand j'avais 14 ans.
Vous pouvez nous la confier ?
Ah oui, c'est extrêmement simple. Tout peut être décodé en termes de problème-solution. C'est le schéma mental que j'ai en tête depuis le début, je ne sais pas d'où il vient, je pense que... Bon. Et je ramène tout, si vous voulez, cette vision, c'est vraiment une vision, tout n'est que problème et solution. D'où les trois activités, problème-solution transcrit en termes de moyen-fin, c'est l'agir, en termes de question-réponse, c'est le connaître, et en termes de matière et de forme, c'est le faire. Et donc, je vois tout en termes de problème-solution, y compris le devenir considéré d'un point de vue métaphysique.
Est-ce que vous pourriez dire que vous vous inscrivez aussi dans une démarche existentialiste, même si c'est, vous inscrivez pas dans ce système de pensée?
Je refuse tout isme. Et donc, je suis d'une génération où on lisait Sartre et les autres. Oui. Si vous voulez. Donc, je crois avoir lu tout Sartre, mais à 15 ans, si vous voulez. Qu'est-ce que j'en ai retenu? Je n'en ai pas la plus petite idée, si vous voulez. Je crois rien. Enfin, je peux pas dire.
Pourtant, en tant que votre élève, j'ai découvert dans les années du lycée la philosophie avec Sartre. Ouais. Et en suivant vos cours, en m'apercevant que vous avez des valeurs, j'ai parfois l'impression, et que vous accordez une grande place à l'action, j'ai parfois l'impression que vous nous livrez la morale que Sartre n'a pas réussi à écrire.
Vous le dites, donc je m'y rallie, mais c'est un tout. Non, vous savez, les influences souterraines, précisément, elles sont souterraines, donc le fait est que je l'ai lu, donc il est possible que ça m'ait fécondé, si vous voulez. Il y a d'autres, quelqu'un comme Husserl, par exemple, la phénoménologie, je n'ai jamais lu publier plus de 5 pages, ça me tombe des mains, là je suis sûr que, il y en a que j'ai lu si tard qu'ils n'ont pas pu m'influencer du tout, comme Heidegger, que j'ai lu pour me distraire il y a quelques années, si vous voulez. Donc, je reconnais le génie, etc. Mais enfin, bon, aucune influence.
Alors,
mais je donnerai la même... Pour moi, c'est un des... C'est le géant, si vous voulez. Le géant avec Aristote et Thomas d'Aquin, je crois que c'est vraiment ceux-là, les trois-là, qui m'impressionnent le plus. Dire que j'ai lu Hegel la plume à la main pour... j'en ai lu beaucoup, si vous voulez. Je n'ai jamais été convaincu par le système lui-même. Bon, la thèse, antithèse, synthèse, pour simplifier, ça me paraît tellement mécanique qu'au bout d'un certain temps, on le fait à sa place. Si vous voulez, ça marche tout seul. Donc ça me paraît dépourvu. Enfin, disons que ça ne me séduit pas. Par contre, tout ce qu'il dit est toujours juste et incroyablement profond.
Merci d'avoir écouté cette émission Temps contre Temps. Je vous rappelle que nous étions en compagnie de Jean Béchler, que vous venez d'entendre, philosophe, historien et sociologue, en compagnie également d'une de ses étudiantes en thèse, Nadia Roy. Merci à chacun d'être venu à cette émission. Merci à vous de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine pour un autre Temps contre Temps.